Bienvenue dans Résonance, une émission réalisée et mise en onde par Simon de Borne. Hospitalité linguistique et culturelle, ce sont les gestes de toutes les inventions idiomatiques et poétiques dans lesquelles le bruissement des cultures et des langues crée des voisinages sonores, des complicités signifiantes et joyeuses, des hospitalités sans frontières. Les propos de la philosophe Marie-Josée Monzin nous invitent à ouvrir nos fenêtres, nos imaginaires, à désigner les gestes, dit-elle, qui peuvent débarrasser les regards et les mots de toute emprise hégémonique à partir d'une énergie fictionnelle. Fin de citation. Ces hospitalités linguistiques et culturelles existent chaque fois que quelqu'un porte sur tout autre un regard sans précédent, au sens propre. C'est tout ce qui précède, qui répète et mortifie la possibilité même de tout événement, souligne-t-elle encore. Accueillir, être à l'écoute, recevoir d'autres manières de dire, de raconter, de mettre en mots, donner l'envie, la curiosité de découvrir des imaginaires, de partager ceci avec vous, ce sont ces chemins que notre émission souhaite parcourir, arpenter avec vous, chers auditeurs et auditrices. S'aventurer sur les divers chemins qu'empruntent l'imagination, la pensée, l'émotion, le besoin de dire pour nourrir l'acte de création et s'ouvrir, s'adresser, aller à la rencontre d'un large public à travers la forme de la création radiophonique. C'est ce à quoi nous vous invitons en échauffant vos oreilles à travers différentes pièces radiophoniques. Pour débuter ce parcours, je vous propose tout d'abord une pièce que nous avions diffusée dans notre émission le 10 mai 2016, intitulée « L'autre côté ». Cette pièce radiophonique imaginée, réalisée par une classe de 4e de la Cité scolaire internationale de Gerland dans le Rhône, est à l'initiative de la professeure de français Isabelle Perennec. L'idée était de concevoir une création collective pour laquelle les élèves ont écrit en amont la nouvelle, chacun proposant une partie. Puis, il y a eu la mise en commun de tout cela et la réécriture pour lui donner une forme définitive. Un musicien, metteur en son, sound designer, interprète, jouant du violon, de l'électroacoustique et de la musique électronique, arrangeur, Sébastien Eglem, a été invité à venir travailler avec cette classe de 4e. Tout un travail de recherche sur les éléments sonores du texte, sur le son, de la transformation du son, improvisation vocale, instrumentale, avec des matériaux sonores, les enregistrements, la lecture, la recherche du dire du texte, tout cela s'est déroulé pendant une vingtaine de rencontres. Petit à petit, une fiction radiophonique prend forme dans le cadre de ce travail collectif. Sébastien Eglem a également finalisé la mise en forme de ce document. Rappelons aussi que cette pièce avait été créée lors du festival Oreilles en boucle de Chambéry le 17 mars 2016. Je vous propose de découvrir et de vivre cette aventure radiophonique intitulée « De l'autre côté ».
De l'autre côté. Tout d'un coup, mon cœur se mit à battre très fort. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu cela. Le vent qui caressait mes cheveux, le soleil qui réchauffait ma peau et qui reflétait dans le lac mon image à moitié cachée par l'arbre qui était derrière moi. Il y avait un magnifique coucher de soleil, ce qui rendait l'atmosphère calme et douce.
Louis, tu m'écoutes ? Ton sandwich à la mozzarella et à la tomate est prêt.
Oui, oui, je t'écoute mon amour, merci.
Ça te plaît cette mozzarella que mes parents m'ont ramenée d'Italie ?
Je ne fis pas vraiment attention à ce que ma femme me disait. Je n'arrivais pas à me rappeler où j'avais déjà vécu tout cela. J'essayais de chercher dans mes souvenirs, particulièrement dans mon enfance. je me rendis compte que je n'avais aucun souvenir d'avant mes 5 ans. Mais ça me semblait normal. Personne ne se rappelle de sa petite enfance. Dans l'après-midi, en faisant une promenade, ma femme me dit que nous devions nous asseoir pour qu'elle m'annonce quelque chose de très important.
Je voulais te dire que je dois partir quelques semaines en Thaïlande pour mon travail.
J'étais très choquée. C'était la première fois que nous allions être séparés si longtemps. Elle ajouta qu'elle devait rentrer préparer ses valises. Je lui répondis que j'allais rester encore un peu pour profiter de cette belle journée. En me promenant tout seul devant le lac, je sentis un vague sentiment d'incertitude qui me laissait perplexe. Je ne retrouvais toujours pas où ni quand j'avais vécu une situation semblable. Quand je rentrais à la maison, je trouvais ma femme en train de faire ses valises. À ce moment, je ressentis quelque chose de très fort. Le fait qu'elle allait partir et me laisser tout seul me troublait vraiment.
Le lendemain, après une journée de travail longue et difficile, je rentrais chez moi, épuisée. J'étais tellement fatiguée que je me couchais sur mon lit, à côté de ma femme. Je fermais les yeux et je m'assoupis rapidement. J'avais l'air d'avoir à peu près 5 ans. Un homme et une femme prétendaient être mes parents. On était dans une chambre et l'homme me dit:
aujourd'hui, nous allons à la pêche. On a pris la décision de te laisser ici tout seul. Et on veut que tu te comportes comme un grand garçon. Et surtout de ne pas ouvrir la porte en face de ta chambre. De toute façon, j'y garde précieusement la clé.
J'attendis que ces personnes partent. Puis, d'un coup, j'entendis un bruit qui venait de la chambre d'en face. Ma curiosité me poussa à essayer d'ouvrir la porte interdite. J'avançais de plus en plus près, mon cœur battait de plus en plus fort. J'étais excitée, mais terrifiée en même temps. Je tournais la poignée lentement, en essayant de ne pas faire le moindre bruit. Mais la porte était fermée. J'essayais de nombreuses fois, mais ce fut en vain. Découragée et fatiguée de frapper et de donner des coups de pied à cette fichue porte, je m'assis dans le canapé. C'est là que je vis un objet très brillant, qui reflétait les rayons de soleil qui venaient de la fenêtre. Je déplaçai les coussins du canapé et, en dessous, je trouvai une clé. Je me levai brusquement et me dirigeai vers cette fichue porte pour insérer la clé dans la serrure. Et comme par magie, la porte s'ouvrit.
Au début, je ne compris pas pourquoi l'homme ne voulait pas que j'ouvre la porte, car il n'y avait que des cannes à pêche, des seaux pour les poissons drapés, des chapeaux qu'on voit les pêcheurs porter dans les films, et d'autres objets que l'homme avait dû accumuler à la pêche. Soudain, de l'eau dégoulina des seaux qui, à l'instant, avaient paru vides. Tout d'un coup, je me retrouvais au milieu d'un lac en train de me noyer, et j'entendis une voix qui ressemblait à celle de l'homme qui prétendait être mon père.
是因为我是你的父亲，所以我才把你留在河边。
Je me réveillais angoissée par ce cauchemar inhabituel. Mon angoisse devint de l'appréhension car je me rappelais de quelques parties du rêve, même si celles étaient vagues. Une de celles-ci était un des mots dits quand je me noyais dans le lac. Le mot était
父亲.
Je le comprenais comme signifiant père, mais je ne savais pas de quelle langue il venait. Je partis à la recherche de l'origine du mot en allant travailler, car des personnes de diverses nationalités travaillaient avec moi. Arrivé à l'agence touristique, je demandais à mes collègues, qui venaient tous de différents pays, s'ils connaissaient le mot et si ce mot signifiait bien père, comme je le pensais. Finalement, après avoir demandé à un Israélien, un Turc et un Japonais, un Chinois, mon ami Wong, ne fit qu'augmenter mon appréhension, car il confirma que ma traduction était la bonne.
Deux jours plus tard, je rentrais de l'agence, épuisée par mes pensées obsédantes sur cet étrange cauchemar. Ma femme était alors partie en Thaïlande pour une action humanitaire après le tsunami du 31 octobre. Je me trouvais donc seule chez moi. Je ne pris même pas le temps de manger. enfilé mon pyjama, bu un verre de lait et me couché. Toujours avec ce mot « Fuchin » dans la tête. Lorsque je trouvais le sommeil, je plongeais dans un nouveau rêve bien étrange.
Je ne savais pas où je me trouvais. Il me semblait que j'étais ligoté à une vieille chaise rouillée, moisie et froide. Je me trouvais dans une pièce inquiétante dont le sol de pierre était mouillé et l'endroit était en général glacial. J'étais de plus en plus apeuré. J'essayais de me débattre de la chaise, mais en vain. On avait l'impression que j'étais collé à cette dernière. Tout à coup, l'eau qui recouvrait le sol de la pièce s'assembla dans un corps effroyable qui se releva devant moi. À ce moment-là, je fus pris par la peur. Moi qui avais toujours été effrayé par l'eau, qui n'étais jamais allé à la piscine comme les autres. Je me retrouvais face à une créature faite de mon pire cauchemar, l'eau. La chose n'avait pas de visage, ni de cheveux ou d'autres caractéristiques humaines. Il y avait simplement cette forme où je distinguais deux prunelles brillantes. Je fermais rapidement les yeux et la chose parla.
N'aie pas peur.
J'ouvris lentement les yeux et en la voyant, j'aperçus un petit bob bleu clair sur sa tête. Le bob me rappelait quelque chose, mais je ne savais quoi. Sur la tête de la créature, il était trop petit et ne tenait pas complètement.
Je sais que j'ai ta peur et je vais en profiter de manière abusive. Tu te rappelles de tes 5 ans?
J'essayais de crier, mais ma bouche n'obéissait pas.
Ce jour-là, toute ta stupide famille alla à la piscine. Ton grand frère, rigolo, t'a poussé dans le bassin. Lorsque tu étais devant, hésitant et craintif.
Dans ma tête, à chaque phrase qu'il disait, ce moment se reconstituait tel un puzzle.
En parlant de puzzle, j'ai bien aimé celui qui montrait une poupée maléfique. Et que tu as fait, naïf et bête. Et ce n'est qu'à la fin que tu t'es rendu compte de l'image.
À cet instant, je compris avec angoisse que cette créature savait lire mes pensées. Je me souvins de ce rêve où je me noyais dans ma propre salle de bain, sans aide ni rien d'autre.
« Pas cette fois !»
dit enfin la créature, qui s'agitait de plus en plus, comme pour m'hypnotiser. Elle se leva et partit dans le noir.
« Zour,
me chuchota-t-elle à l'oreille. Elle se liquéfia. Une énorme vague s'abattit sur moi et m'emporta. Je ne savais pas nager et lorsque je pus enfin bouger, je battis des bras désespérés. Au moment où je croyais que ma fin était arrivée, l'eau disparut. La seule chose qui resta dans la pièce était le bob bleu, plus étrange que sur la tête du monstre. On avait l'impression que la créature terrifiante s'était réincarnée dans ce bob. Épuisé, je m'endormis.
Je me réveillais le lendemain matin, apeuré. Le bob bleu était au milieu de ma chambre. Je le ramassais et je remarquais qu'il était humide. Sur le bob se tenait une petite peluche cousue qui me regardait d'un air craintif. Il me sembla étrangement familier et je me demandais si je ne l'avais pas vu auparavant. Je pus entrevoir, dans la partie intérieure du bob, un prénom brodé en couleur de sang, très mal cousu. Je ne pus que déchiffrer Louis R. Le reste était comme effacé. Le R ressemblait vaguement à un B, qui était l'initiale de mon nom de famille, Bernard. Je n'en étais pas sûr. Tout ça faisait beaucoup de coïncidences. Je ne savais pas quoi faire. Il y avait trop de choses dans ma tête. Je devais les écrire sur un bout de papier. J'étais épuisé, et en écrivant les derniers mots, je m'endormis. Mais une chose continuait à me hanter. Cette unique phrase, hurlée par la créature, sonnait sans cesse dans ma tête. Le lendemain, je cherchais à comprendre ce que cela signifiait. Cela m'angoissait car je me rappelais de l'avoir déjà entendu prononcé par des gens qui me semblaient familiers. J'étais perplexe. Je me souvenais d'une personne qui avait dit ce mot. Mais qui était-elle? J'essayais de me rappeler la signification de cette phrase. Mais c'était impossible. Je me demandais ce qui m'arrivait. Étais-je fou? Devais-je voir un psychiatre? Je ne savais plus quoi faire. Je me sentais malade. J'avais terriblement mal à la tête. Je ne savais qu'une seule chose sur cette phrase, c'était qu'elle était en allemand. Une des seules personnes que je connaissais parlant allemand travaillait avec moi dans l'agence de voyage. Je voulais lui rendre visite, mais ma tête me faisait trop mal. Je décidai de me reposer pour pouvoir aller la voir le lendemain. Je m'allongeai sur mon lit, je fermai les yeux et m'endormis tout de suite.
C'était un jour nuageux. J'étais dans un village qui m'était inconnu. Hélas, il avait l'air abandonné. Le silence était absolu. Le vent soufflait dans les carcasses des vieux bâtiments. Des ombres semblables à des fantômes parcouraient les murs des maisons. Un dense brouillard s'étendait devant moi et me cachait les ombres de deux formes lugubres qui me paraissaient étrangement familières. Elle me souriait. Je courus maintes fois vers elle, mais elle disparaissait toujours peu de temps avant mon arrivée vers elle. Au sol, habillée d'une tenue turque, se trouvait une poupée semblable à celle avec laquelle jouent les petites filles. Mais elle avait quelque chose de glauque, quelque chose qui faisait peur. Les orbites de ses yeux étaient totalement vides, et du sang coulait de ses yeux, comme des larmes qui coulent de nos yeux quand on est heureux, quand on ne peut pas retenir son rire. Je me souvins alors que cette poupée m'avait déjà été offerte, mais, malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à me souvenir qui avait bien pu m'offrir un truc pareil. À l'époque, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas encore la représentation de la mort. Il y avait une corde dans son dos, je la tirai et la poupée dit
« Benson Savio Baba Anne ».
Des larmes coulèrent aussi sur mes joues, semblables aux siennes. Elles tombèrent sur la poupée et elle me regardait de ses yeux sans vie, puis me parla. Effrayée, je la lâchai et elle tomba par terre. Je partis en courant, l'idée m'effleura que cette poupée voulait en terminer avec ma vie. Cette engeance du mal me poursuivait en parlant, et je décidai de me cacher dans une des vieilles maisons. Une fois caché, j'attendis avec anxiété que la poupée m'oublie et parte. Lorsque je n'entendis plus aucun bruit, je m'approchai de la porte pour essayer de me sauver. Celle-ci s'ouvrit et la poupée me fixa avec l'obscurité de ses yeux. Elle redit la phrase qu'elle aimait tant dire. Je n'avais aucun endroit où aller, mon heure était arrivée, alors ma respiration s'arrêta.
Je m'étais réveillée. Deux mots revinrent à mon esprit.
Baba Anne.
Encore une fois, je ne savais pas ce que cela voulait dire. En sortant de chez moi, je vis une publicité proposant de voyager en Turquie. Une personne présentait la publicité. Elle était en tenue traditionnelle turque. Elle me rappela la poupée de mon rêve. Je marchais de plus en plus vite. Je ne savais plus où j'allais. Jusqu'à ce moment, je m'arrête devant un magasin de jouets. Je demandai au caissier s'il avait une poupée avec une tenue turque. L'homme se retourna, marmonna quelque chose dans sa barbe et disparut dans la pièce derrière lui. Je la regardai, mais je fus coupée par l'homme.
Alors, vous allez l'acheter ou pas ?
Elle ressemblait bien à celle que j'avais vue dans mon rêve, mais j'étais trop vieux pour acheter une poupée. En sortant du magasin, je fis les courses que je n'avais pas pu faire la veille.
En rentrant chez moi, je remarquai une boîte de plus dans mon armoire. Je me rappelais alors que lorsque j'avais emménagé, j'avais déposé cette boîte contenant mes anciennes affaires. Et parmi elles, une boîte était là, de la taille d'une main. Je la pris et j'essayai de l'ouvrir, mais il fallait une clé. En cherchant encore, je trouvai un sachet rouge contenant une dizaine de clés. Je pris la boîte et essayai d'ouvrir la serrure. La dixième clé me permit de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une petite poupée semblable à celle du magasin de jouets. Seulement, à la place des yeux, il y avait deux grands trous obscurs. Elle était plus vieille. Derrière, sur son dos, se trouvait une corde. Lorsque je la tirais, la poupée dit tout simplement
« Benson Savio Baba Anne ».
Après avoir écouté cette phrase plusieurs fois, je me rappelais peu à peu de mon rêve. Dans la boîte, il y avait aussi une photo. Trois personnes, dont un enfant, se trouvaient dans une rue ancienne. Deux détails me troublaient. Le premier était que les deux adultes ressemblaient à ceux de mon rêve. Et le deuxième était que, dans la main de l'enfant, il y avait une poupée qui ressemblait à celle que j'avais à côté de moi. Je m'assis sur mon siège, regardant la poupée entre mes mains et la photo devant moi. Je me dis, en regardant ces deux objets, que c'était à cause d'eux que j'avais rêvé de la poupée et de ces deux adultes qui m'étaient inconnus. Mais cela faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu ces objets. Pourquoi ne les avais-je pas reconnus dans mon rêve ? En même temps, je me disais qu'il était difficile de repenser à des objets dont je ne connaissais pas l'origine. Je ne me rappelais pas avoir joué avec cette poupée dans mon enfance. Et je ne savais pas comment elle s'était retrouvée dans ce carton. Fatiguée de cette longue journée, je m'endormis sur le siège.
Un soir de la semaine suivante, je ne voulais pas me coucher, de peur que tous ces maudits cauchemars recommencent et hantent mon sommeil. Pour tuer le temps, j'allais me reposer dans le canapé. Mes yeux se posèrent sur la place habituelle où ma femme s'asseyait. Si seulement elle était là pour vaincre ma peur et me redonner raison. Car j'avais l'impression d'être passé dans une autre dimension, comme dans un film d'épouvante, et d'être devenu fou. Je pris la télécommande et allumai la télé. Le premier programme qui me saute aux yeux était un documentaire scientifique sur les grottes et les ténèbres. Cela me rappelait ce que me disait ma femme quand j'étais tourmentée par des phénomènes inexplicables. Regarde des documentaires ou des magazines logiques pour combattre tes pensées ridicules. Je me mis à regarder attentivement. Un homme au visage bronzé qui faisait ressortir son large sourire aux dents blanches parlait d'une voix monotone à la caméra. Il commença à parler.
Une maladie vient de faire son apparition. Elle affecte surtout les mammifères qui vivent dans les grottes et les fermes qui les entourent. Hier, une centaine d'oies en ont été victimes. Et le revenu des fermiers baissera d'au moins 6% cette année.
Après quelques heures, je trouvai le courage d'aller me coucher. Mais lorsque je montais dans ma chambre, je sentis l'angoisse m'envahir de nouveau. Je me couchai alors, terrifié à l'idée de dormir. Je fermai les yeux et je me sentis encore une fois saisi d'une force incroyable.
Mon corps avait rétréci, mes cheveux étaient plus doux et mes mains plus petites. J'étais assis sur des pierres froides et, lorsque ma vision fut plus nette, je trouvais dans un cercle d'enfants. Je tournais vers le plus proche. Il me semblait plus familier, plus aimable que les autres. Il fermait les yeux, souriait, excité. J'avais l'impression que ça faisait 30 ans que je ne les avais pas vus. Mais pourtant, ils n'avaient qu'entre 5 et 6 ans, comme moi. En les observant, je remarquais que les autres fermaient aussi les yeux. Et par intuition, j'ai envie de faire pareil. Mais j'avais trop peur. Que pourrait-il se passer si je fermais les yeux un instant ? Un enfant courait autour du cercle. Il prononçait de manière répétitive.
Tac, 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 tac.
En frôlant la tête des enfants à chaque fois qu'ils prononçaient Doc. Je commençais à me détendre, presque au point de fermer les yeux. J'étais bercée par la voix du garçon qui répétait rythmiquement le mot, presque comme une chanson. Mais tout d'un coup, il dit Goose, et mes yeux s'ouvrirent.
Goose.
L'enfant qui avait été nommé Goose se tordait dans tous les sens. L'enfant se transforma, sa bouche s'allongea et forma un bec. Ses genoux se brisaient et continuaient à se tordre dans tous les sens. Les formes étranges se formaient sous sa peau, puis on vit des plumes sortir de tout son corps. Il criait et pleurait de douleur. Une oie énorme, plus grande que les enfants, plus grande que les arbres, apparut à la place de l'enfant. Les autres enfants, eux, riaient. J'entendis un rire cruel qui m'emplit de terreur.
Désespérée, je me réfugiais dans une grotte. Je me blottis dans un coin, puis... je me redressais, et soudain, la panique m'envahit, car je ne voyais ni l'entrée, ni la sortie de la grotte, qui, à présent, ressemblait plus à un tunnel. Tout à coup, je vis un enfant, avec des yeux verts, qui me ressemblaient. Je ressentis une envie incontrôlable de le suivre. Je me sentais de plus en plus angoissée. Un frisson montait le long de ma colonne vertébrale, et mes cheveux se dressèrent. Soudain, je me sentis faible. Alors, j'essayais de poser ma main sur un des murs de la grotte, mais elle passait à travers. Quand j'ouvris les yeux, il y avait un lac, au bord duquel je vis alors une famille. Quand je regardais de plus près, je vis que l'enfant qui m'accompagnait, c'était moi. Petit, enfant, mais quand même là. Il me tendit la main. Il avait les réponses, il savait quoi faire, j'en étais sûre. Je lui pris la main. Je me rapprochai du lac pour me calmer. Je me penchai en avant pour voir mon reflet dans l'eau claire, presque transparente. En me regardant dans l'eau, je vis mon reflet prendre la forme du petit garçon, et ce reflet me dit quelque chose, d'une voix inquiète. « Come here, doc, doc, come back. » Tout à coup, Sa main sortit du lac et attrapa la mienne. Je m'agrippai au garçon près de moi. Mon reflet poussa un cri et disparut au fond du lac. Je me réveillai en sueur, le cœur battant à toute vitesse. Puis, je me mis à pleurer silencieusement, dans le noir. Je pris ma tête entre mes mains. J'attendais que le mot me revienne. Puis là, tac. Comme je l'avais prédit, me revint le mot « tac ». Mes pensées me tourmentaient. Tac. Qu'est-ce que cela voulait dire ? En quelle langue ? Je me levai donc, tac. Toujours bouleversée par l'image du petit garçon. Je me fis un café. Il était 4h du matin. Je devais me lever à 6h. Ça ne valait pas la peine d'essayer de me rendormir.
Je sursautais une nouvelle fois dans mon lit. Je m'étais donc bien rendormie. Ces satanés rêves me hantaient et ne me laissaient pas dormir. Je vins m'asseoir à mon bureau. Mon esprit était chaotique. J'avais l'impression de connaître ces mots étranges du rêve, mais je ne parvenais pas à me souvenir de leur signification. Pourquoi ces rêves continuaient-ils à envahir mes nuits ? Je ne méritais pas cela. Pourquoi une chambre avec des cannes à pêche, une créature bleue bizarre, une poupée effrayante qui parlait et une oie géante ? Tout cela n'avait aucun sens. Je m'arrachais les cheveux en essayant de comprendre et d'y mettre un peu de logique. J'entendais plein de langues différentes où les mots roulaient sur la langue des habitants en créant des sons plus extraordinaires les uns que les autres. Tous les matins, je me réveillais en sueur, tremblant et terrifié. Je n'en pouvais plus. Cela empirait chaque nuit.
Après une éternité passée à me torturer l'esprit, j'avais une forte migraine. Mais ma détermination à trouver un sens cohérent à tout cela, pour prouver que je ne devenais pas fou, m'empêchait de faire une pause. J'ai cherché dans mes souvenirs pour nouer un lien entre tous ces événements. Mais je ne trouvais rien. Rien du tout. Ce n'était que des rêves, mais restaient coincés dans ma tête tels des lambeaux de tissu accrochés à des barbelés. Je ne comprenais rien à cela. Et je pensais devenir fou. Ce jour-là, je décidai d'aller travailler, même si j'étais épuisé. Au bureau, je n'arrivais pas à me concentrer. Ces cauchemars me hantaient. Enfin, la fin de la journée de travail arriva, et je sortis. À mon plus grand malheur, il commençait à pleuvoir. Avec un soupir, je me dirigeai vers ma voiture. La pluie me tombait dessus comme un torrent glacial. Finalement, je rentrai chez moi. Mes pensées, parties pendant un moment, revenaient comme une vague monstrueuse.
Peu à peu, je commençais à faire le lien entre mes rêves et ma réminiscence auprès du lac. Tous ces mots qui me tourmentaient me semblaient liés par une raison inconnue qui pourrait changer ma vie. Je ne savais pas s'ils étaient reliés entre eux par une simple coïncidence ou alors si tout formait une histoire qui se rapportait à mon enfance grâce aux mots « papa » et « maman ». J'avais pu les traduire grâce à la publicité de voyage en Turquie et au caissier du magasin de jouets qui était turc et m'avait traduit ces deux mots. D'ailleurs, en pensant à mon enfance, je commençais à me demander si ce que m'avaient raconté mes parents était bien réel ou s'il me cachait une partie de mon passé. Ce groupe de mots que j'avais rassemblé grâce aux différents cauchemars était formé de canards. Papa, maman et lac. J'avais réussi à traduire la phrase en appelant mon collègue allemand Such im See, qui signifiait « cherche dans le lac ». Tous ces mots me semblaient bien familiers. J'avais l'impression qu'ils voulaient me faire trouver quelque chose. Je ne comprenais pas pourquoi ni comment je réussissais à retenir ou à traduire des mots en langue étrangère que je n'avais jamais apprises. Si tous les éléments que j'avais reconstitués étaient vrais, alors peut-être trouverais-je une explication à ces vagues souvenirs près du lac et à mon amnésie concernant ma petite enfance.
Grâce à mes rêves, aux mots traduits et aux objets Des images m'étaient cependant revenues. Un lac bleu vif, transparent, des affaires de pique-nique, un petit caneton en train de se noyer. Deux visages qui m'avaient l'air familiers et me réconfortaient. Je croyais les reconnaître comme mes parents. À un autre moment, une autre image apparut. De l'eau me descendait le long du torse et une flaque s'était formée à cause de l'eau qui tombait de mon menton. Des bras sortaient de la surface de l'eau, comme un zombie ressortant de sa tombe. Bizarrement, contrairement aux autres images, l'eau du lac était devenue d'un noir sinistre et les arbres étaient placés autour de l'enclos comme les barrières d'une prison. Une terreur aiguë m'envahit de nouveau en pensant à cette reconstitution dont je ne connaissais pas l'origine.
Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas être en train d'arriver. Je sentais que j'avais de la fièvre, la tête qui tournait, des gouttes de sueur trempaient mon front. Des visions me traversaient l'esprit. Réfléchis, lui, réfléchis. Je décidai de m'asseoir sur une chaise et ce fut alors que je vis une chose qui allait tout changer. En effet, une enveloppe se trouvait sur mon bureau. Dans celle-ci, il y avait une carte postale du Mexique avec une photo d'un petit garçon d'environ 8 ans. Cette image me rappelait quelque chose. Cela ressemblait au petit garçon dont j'avais rêvé si souvent. À côté de lui se tenaient deux adultes, sûrement ses parents. Ils portaient de vrais habits de voyageurs, un appareil photo chacun et un guide de voyage. La femme avait même un grand chapeau avec une fleur. Ils avaient l'air très heureux. Je me dis que ces cauchemars devaient venir de cette carte postale, qu'ils avaient été placés dans ma tête pour que je voie cette carte un jour. Je lançai avec rage l'image contre le mur et me pris le visage dans les mains. Je voulais que tout s'arrête. Je ne pouvais plus supporter tout cela. Ces cauchemars n'étaient pas vivants. Je voulais seulement vivre normalement et effacer les rêves de mes pensées. Il était aussi possible que je sois un peu fou et que ces cauchemars soient réels. Je voulais que tout cela s'arrête pour toujours.
Une semaine plus tard, ma femme rentra de son voyage. J'allais la chercher à l'aéroport. Mais il manquait quelque chose. Il manquait une partie de moi et je n'avais pas réalisé que je l'avais perdue. Une passion peut-être, ou cette tendresse que je ressentais habituellement dès que je la voyais. Peut-être que cela n'avait rien à voir avec les événements récents, mais j'en doutais. Le soir venu, je lui expliquais ce qui s'était passé ces dernières semaines, espérant qu'elle pourrait trouver une solution à cette histoire de fou. Je lui racontais tout, mes malheurs, mes rêves, mes angoisses et mes terreurs. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse pendant un moment.
Tu ne m'avais pas raconté que tu faisais des cauchemars quand tu étais petit ?
C'est vrai, je n'étais qu'un enfant. Mais cette fois, c'est différent. Les cauchemars sont beaucoup plus réalistes.
Mais un cauchemar reste un cauchemar, qu'on soit enfant ou adulte.
Avait-elle raison ?
Après un moment de silence, je crus qu'elle s'était endormie. Je me levai donc et je recommençai à réfléchir à tout ça. Aux mots, aux cauchemars, aux objets. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Je tournais en rond, mais je n'arrivais pas à trouver une solution. Je m'assis pour réfléchir plus calmement à tout cela. Au bout de quelques heures, mes nerfs s'apaisaient enfin. J'étais de toute façon trop épuisé pour continuer à penser. Ma femme avait sans doute raison. Tout ceci n'était que le jouet de mon imagination, de ma fatigue et des langues que j'entendais continuellement à l'agence de voyage. Je décidai donc de retourner me coucher. Mais avant, j'allais chercher un verre d'eau. En passant dans le couloir, je jetai un coup d'œil dans le miroir. Il me sembla voir une silhouette, à peine humaine. Je regardai plus attentivement. Je distinguai une autre silhouette, aussi floue que la précédente.
Étrangement, elle me semblait familière. Une femme mince et petite, aux longs cheveux châtains et aux yeux d'un vert éclatant. Et un homme, grand, qui se tenait auprès d'elle et qui me regardait d'un air réconfortant. La femme me ressemblait comme deux gouttes d'eau. C'était les personnes de la carte postale. J'eus le souffle, coupé. C'était mes parents, mes vrais parents. Non ceux que j'avais cru être mes parents depuis tout ce temps. M'avaient-ils menti ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? Plus j'y pensais, plus je cherchais encore une fois une explication. Plus le sourire de ma mère s'agrandissait. J'avais trop peur de me retourner, de voir pour la première fois mes parents en chair et en os. Je regardais longtemps notre reflet, me préparant à me retourner. Finalement, Ma curiosité et mon impatience vainquirent ma peur et la voix dans ma tête qui m'empêchait de me retourner, de les embrasser et de leur poser toutes les questions qui me venaient. Je me retournais. J'étais seule.
Résonance sur Radio B, nous venons d'entendre cette pièce radiophonique, L'autre côté, imaginée, réalisée par une classe de 4e de la cité scolaire internationale de Gerland dans le Rhône, à l'initiative de la professeure de français Isabelle Perennec et de la complicité du musicien Sébastien Eglem. Alors, poursuivons, si vous voulez bien, après cette mise en bouche, notre cheminement, avec cette fois-ci une pièce du compositeur Frédéric Kahn, intitulée « Au-delà des mots ». « Au-delà des mots », c'est une pièce composée en 2001, qui a été primée lors du concours Chasseur de sons de Radio France dans la catégorie « Création sonore ». Mots, objets oubliés qui résonnent encore, paysages sensibles et poétiques, terrain vague de la mémoire, une carte du tendre sonore. « Au-delà des mots » est un film pour l'oreille, un film sonore sans images.
Je attends ailleurs. Il les attend dans le hall de l'hôtel. Il les attend à une autre heure de nuit. De nuit dans le hall de l'hôtel. Le hall a changé d'aspect.
Résonance sur Radio B. J'espère que vous avez pu vivre, effectivement, aussi bien par l'imagination et l'oreille, cette pièce de Frédéric Kahn, Au-delà des mots, un film pour l'oreille, un film sonore sans image. Alors, nous poursuivons aussi, et je vais vous proposer à nouveau d'entendre une rediffusion. En effet, en janvier 2016, Résonance s'était aventurée dans les coulisses d'une fiction radiophonique, imaginée cette fois-ci par des enfants d'un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile de Valence, HMETLA de la page, Drôme. Un projet de fiction radiophonique mis en place par une radio locale également, intitulée Radio Méga, une radio associative comme les Radio B ici à Bourg-en-Bresse, dont la vocation est de promouvoir l'information locale, l'expression et la pratique de la radiodiffusion pour tous et par tous. Pour ce projet de fiction radiophonique, une comédienne, Ingrid Lebrasseur, et aussi Julien Marty, gérant de la société Résonance Média, spécialiste des restitutions plurimédia, des audioguides, documentaires sonores, web documentaires, avaient accompagné les enfants dans cette démarche de création. Alors découvrons ensemble Master Super Pouvoir.
Nous sommes sur le terrain Vague de l'Amont RT, dans la zone industrielle de la ville de W. Anna, Martin, Jonathan et Alice sont des amis inséparables. Comme chaque fin d'après-midi, ils aiment se retrouver pour jouer, discuter et passer du bon temps.
Ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus.
Ouais, c'est clair.
J'ai garé mon scooter là-bas, vous pensez que ça va déranger ou pas?
Non, je pense pas, j'ai fait pareil avec le mien.
Ok, j'ai un ballon, tu sais qui veut jouer?
Oh, moi je veux bien.
Ok, bon bah c'est parti, c'est qui compte?
Moi je suis pas très bien compté alors.
Là, je viens de sortir des cours alors hein.
Ah non, moi non plus, je suis là.
Bon. Qui c'est qui a mis à manger? J'ai trop faim là.
Oh mince, j'ai oublié.
T'es sérieux? Mais c'était à toi de l'emmener.
Oh je sais, regardez cet arbre. Il y a des fruits dessus, on a quoi les prendre?
Vous avez vu ou pas le panneau tête de mort avec noté danger là sur le grillage? Moi j'y vais pas, ça me fait flipper hein.
Ouais.
Bon j'y vais.
Fais gaffe, hein, y a la centrale nucléaire là.
Ouais. Fais gaffe, ça peut être dangereux hein.
Oui, ça peut être dangereux.
Tenez, regardez ce que j'ai trouvé.
Ah, mais merci. Cool, franchement, cool. C'est trop merci. Cool. Hein.
Il n'y a personne qui t'a vu au moins.
Non.
Ah, cool.
Ah, oui, c'est bon alors.
Puis ça, ça a l'air trop bonne.
Grave. Vas-y, donne-en une.
Tiens.
Merci. Elles sont trop bonnes.
Ouais. Oh là là, ça me régale.
La fin de journée arrive. Chacun rentre chez soi.
Qu'est-ce que c'est?
C'est trop fort, mais... Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah, mais c'est quoi ces bruits? Des araignées, des cafards, des souris? Mais qu'est-ce qui gratte? C'est horrible! Papa, maman! Papa, mon ami!
Quoi?
Mais papa, si fort! Je suis jaune!
Quoi, Anna?
Mais j'entends tout, tout est horrible, j'entends tout!
Ah, c'est bizarre. Comment ça, t'entends pas trop fort?
Mais j'entends tout, papa!
T'as envie que je chuchote?
Oui, s'il te plaît!
Bon, d'accord, hein.
Papa va chercher des boulequettes, peut-être que ça ira mieux!
Oui, j'ai quand même appelé le docteur, hein. Tiens, je t'apporte les boulequettes. Ah, merci, ça va beaucoup mieux. Tu as rendez-vous dans une heure chez le docteur Gélo. Ah, merci, super.
Dans la salle d'attente du docteur Gédo.
C'est à vous, Anna.
Bonjour, docteur Jeudeau.
Qu'est-ce qui vous ramène ici ?
Bah, depuis ce matin, en fait, j'entends tout trop fort, des bruits que je devrais jamais entendre, mes parents qui chuchotent dans la chambre, les pattes d'araignée, les pattes de cafard, tout est amplifié.
C'est intéressant, laissez-moi consulter mes livres 5 minutes.
Pas de problème.
C'est génial, c'est un super pouvoir. Il faut que je puisse étudier en profondeur, avec mon scalpel. Ouvrir pour bien comprendre. Oui, ouvrir pour bien comprendre, avec mon scalpel. Il faut que je l'emmène dans mon laboratoire pour opérer.
Ce n'est pas grave, c'est un sens hyper développé. C'est un sens qui est vraiment, vraiment, vraiment développé. Les boules pièces, c'est pour ça ?
Oui, c'est pour ça. C'est grave, docteur ?
Non, ce n'est pas grave. Vous pouvez les enlever, s'il vous plaît ?
Oui, oui, pas de problème.
Ah !
Au même moment, au parc du Javelot, les trois copains se retrouvent.
Salut Jonathan.
Salut Martin.
Salut les mecs. En fait, vous avez pas un truc à changer aujourd'hui ?
Si, moi.
Si, ouais, moi aussi. Hein.
Vas-y, montre.
À chaque fois que je touche un truc, je peux le faire tomber.
Waouh ! Mais ça a aussi disparu !
C'est super !
Oh my god ! Moi, j'ai un odorat qui est super développé. Par exemple, je peux vous dire qu'il y a un monsieur avec un parfum bon marché qui va arriver avec un beignet à la pomme.
Salut les jeunes, ça va ? Vous voulez un bout de beignet à la pomme ?
Non, merci, merci monsieur. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et toi alors ? C'est quoi ton truc ?
Ah, moi je peux voir à travers les murs.
Ah ouais ?
Comme là-bas dans cette maison, je vois quelqu'un qui fait à manger.
Waouh, mais c'est impressionnant ! Vous vous rendez compte, on a des pouvoirs presque de super-héros.
Ouais, c'est super.
C'est super cool.
Moi, je peux fabriquer un mur.
Ah bon ?
Ouais.
Fabriquer un mur ?
Ouais, en claquant les doigts.
Vas-y, fais.
Comme ça.
Waouh !
Mais c'est comment super. T'as fait ça ? C'est impressionnant.
Vous avez pas vu Anna, vous ?
Non, je l'ai pas vu, Anna.
Moi non plus.
C'est bizarre.
Et toi ?
Ouais, non, moi non plus.
Faudrait peut-être lui téléphoner.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Anna. Je suis désolée, je peux pas vous répondre. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Salut.
Oh non, elle répond pas. Bon, je vais appeler son père. Allô ? Vous êtes bien le père d'Anna ?
Oui, allô ?
Elle n'est pas venue aujourd'hui, elle va bien ?
Elle avait mal aux oreilles, tout était trop fort. Elle est allée voir docteur Jeudou, mais elle devait être revenue depuis longtemps.
Elle n'est pas revenue ? Mince ! Oh my god, tu sens son parfum ! Monsieur, je vous laisse !
Au revoir.
Oh là là, je le sens de plus en plus fort !
Je la vois dans la camionnette, elle est ligotée, inconsciente.
Allez vite, on suit la camionnette.
Oui !
Dans le laboratoire du docteur Jeudou.
Oh, relâchez-moi,
c'est chez le docteur Gédo.
Regarde avec tes pouvoirs ce qu'il y a à l'intérieur.
Il y a des ciseaux, des scalpels, le docteur en face de Anna, et il y a plein de bruits bizarres.
Il faut faire quelque chose, il faut la sauver.
Regarde s'il y a des trucs à l'intérieur.
Le docteur est en train de s'en aller.
Allez, je vais détruire le mur.
On prend Anna et on s'en va.
Allons-y.
Anna, t'es vivante.
Anna, ça va?
Elle est dans les pommes.
Ça va, Anna?
Parlez-moi fort, mes boules caisses, sur la table.
Ah, je crois que c'est ça. Tiens.
Ah, merci, ça va mieux. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de
vous
voir.
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé?
Docteur Gédo m'a enlevé.
Qui vous est là?
Mon mur! Vous allez le regretter!
Oh, attention!
Attention, il est derrière vous!
Relève-toi, Martin, relève-toi!
Mimi, assomme-le! Mets-lui une droite! Allez, fais attention, non, relève-toi! Faites attention, c'est du gaz mortel!
Mur de verre!
Waouh, Jonathan, super le mur de verre.
Merci les amis. Avec nos pouvoirs, on va pouvoir sauver plein de gens.
C'est parti!
Preneuse de son, bruiteuse. Et dans le rôle de Anna, la jeune fille enlevée,
Eva Chargereau.
Bruiteuse, preneuse de son, et dans le rôle de la narratrice,
Borel Leslie.
Bruiteuse, preneuse de son, et dans le rôle de Alice,
Clara Minichino.
Bruiteur, preneur de son et cascadeur dans les combats,
Bruno Chipon.
Doublure de Anna et cascadeur,
Ryan Bachachi.
Bruiteur, preneur de son, cascadeur, et dans le rôle de Jonathan,
Steve Brière.
Bruiteur, preneur de son, cascadeur et dans le rôle du passant au beignet aux pommes,
Erwan Flamand.
Bruiteur, preneur de son, cascadeur et dans le rôle du papa d'Anna,
Quentin Buffon.
Bruiteur, preneur de son, cascadeur et dans le rôle de Martin,
Geoffrey Noyel.
Preneur de son, bruiteur, cascadeur et dans le rôle du docteur Gédo,
Andy John Avan.
Bruiteuse,
Joël Lacly,
Véronique Laillé. Bruiteuse et cascadeuse,
Corinne Laurent.
Preneur de son, bruiteur,
ou Marc Onaté,
Lucas Gournier.
Bastien, bien vu.
Bruiteuse, et dans le rôle du conducteur de la voiture,
Hélène Devime.
Scénario, Julien Marty. Mise en scène, Ingrid Lebrasseur. Réalisation, montage, Raphaël Terribilé.
Résonance sur Radio B. C'était donc Master Super Pouvoir, réalisé avec les enfants du service d'éducation et de soins spécialisés à domicile de Valence, de la PAGE, et puis avec le concours, la complicité, l'accompagnement de la comédienne Ingrid Levasseur et de Julien Marty. Alors pour terminer ce voyage sur les hospitalités linguistiques et culturelles, je vous propose d'écouter encore une pièce. Celle-ci s'intitule « La journée ». Une pièce dont le texte a été imaginé par Jean-Baptiste Vauveau, une mise en voix par Jean Milot, et la musique a été composée par Guillaume Lacroux.
Une sale manie. C'était compris.
L'autobus, il arrive toujours en retard.
Toujours en retard.
Mais c'est une manie.
Une sale manie
d'autobus. Toujours.
Une neige.
Quelle pleure. Et quel tremblement de terre. Quelle guerre thermonucléaire. La terre va éclater à cause de Nostradamus. C'est l'autobus qui arrive en retard.
C'est une sale manie. C'est pénible pour les gens. L'autobus arrive toujours en retard. De passagers n'importe où. Dans des ravins.
Sera suffisamment de temps pour s'impatienter. Ceci fait dire à un ami que le monde attend sa perte avec impatience. Le rendez-vous a donc permis l'invention du retard. Un homme qui n'a pas de rendez-vous est un homme. Il n'est pas en retard.
Mais enfin, je crois tout simplement la vie.
La journée, texte de Jean-Baptiste Vauveau, voix de Jean Milo, musique de Guillaume Lacroix. La journée, texte de Jean-Baptiste Vauveau, voix de Jean Milo, musique de Guillaume Lacroix. La journée, texte de Jean-Baptiste
Résonance sur Radio B. Nous venons d'entendre la journée, une sacrée journée, imaginée donc par Jean-Baptiste Vauveau pour le texte. La mise en voix a été imaginée, elle aussi réalisée par Jean Milo, et la musique était composée par Guillaume Lacroux. Nous arrivons maintenant au terme donc de notre émission d'aujourd'hui. Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez réentendre, écouter cette émission où vous voulez, quand vous le souhaitez, en la podcastant, vous le savez, soit sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de votre radio préférée qui est Radio B, www.radio-b.fr. A très vite et belle journée avec Radio B.